des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.
Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre quatrième émission des villes et des hommes qui sera consacrée aujourd'hui à la route du futur. Alors, qu'est-ce que nous entendons par route du futur ? Aujourd'hui, nous allons surtout parler du support physique qu'est la route, c'est-à-dire le support qui permet le franchissement de l'espace à bord de véhicules. Ce ruban routier qui relie les régions, les villes et les campagnes entre elles est aujourd'hui support d'innovation durable. Alors, quelques chiffres clés pour cadrer un peu le sujet de cette émission. En France, nous avons le premier réseau routier d'Europe, plus d'1 200 000 km. C'est grosso modo plus qu'un aller et retour de la Terre à la Lune. Ce 1 200 000 km est composé à 90% de routes nationales, départementales et communales. Contrairement à une idée reçue, les autoroutes ne représentent que 10% de ce réseau. Alors, le réseau de routes nationales, départementales et communales est dense, mais également mature et a besoin de rénovation. Il concentre beaucoup d'investissements publics. On a coutume de dire que la valeur de reconstruction à neuf de l'ensemble du réseau routier français est égale au PIB de la France. Aujourd'hui, quelques difficultés, notamment liées à la baisse des dotations publiques dans un contexte d'explosion de la demande de mobilité. Alors qu'un Européen ne faisait que 5 km en moyenne par jour en 1950, ce sont 45 km aujourd'hui qui sont parcourus depuis 2010. 75% des actifs français ont une voiture, un budget moyen d'environ 6 000 euros par an. Et surtout, l'usage de cette voiture est essentiellement individuel, puisque le nombre moyen de passagers par véhicule en milieu urbain est aujourd'hui seulement de 1,06. À cela s'ajoute évidemment le grand défi écologique de la route, dans sa construction comme dans sa rénovation. Il comprend plusieurs volets que nous détaillerons avec nos invités. Alors, en plateau, nous recevons François Hollard, directeur technique recherche et innovation d'Eiffage Route, qui traitera avec nous des techniques de fabrication routière et de leurs progrès. Et Nicolas Autière. Nicolas, vous êtes directeur adjoint du département composants et systèmes de l'université Gustave Eiffel et vous nous donnerez votre vision de scientifique sur les techniques nouvelles et la prospective que l'on peut raisonnablement en tirer.
Des villes et des hommes, le débat, première partie.
François, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez nous retracer rapidement l'histoire de la route ? Une histoire qui se confond avec le développement des échanges économiques, sociaux, culturels, mais aussi militaires de nos sociétés humaines.
Alors, merci Valérie de me donner l'occasion de vous faire ce bref rappel historique. L'homme se sédentarise il y a 10 000 ans. Il y a 4 millions environ, un petit peu plus, invention de la roue et puis utilisation des animaux de trait. S'ensuivent du troc et le commerce, bien naturellement. Les voies romaines vont structurer un réseau et de façon très durable tout à travers le bassin méditerranéen. Donc les différentes voies romaines sont encore empruntées de nos jours et illustrent la méthode constructive romaine. Je ne peux pas ne pas citer la création du corps des ingénieurs des ponts et chaussées et de l'école pendant le siècle des Lumières en France, et ça a été très structurant pour notre pays. Mais c'est en 1820 environ qu'un Écossais, John Macadam, qui laisse le nom au Macadam que nous connaissons bien, a aussi structuré et a écrit certains guides, certaines encyclopédies sur les techniques d'empierrement, des géométries un peu particulières sur les routes.
Donc c'est lui qui invente en fait ce matériau peu coûteux qui est constitué de terre et de gravier aggloméré.
Oui, et puis de certaines formes de pierres placées d'une certaine façon avec des géométries pour que l'eau puisse bien s'écouler, puisqu'en Écosse, vous savez, le temps peut être capricieux. Mais la route telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le début du XXe siècle. En fait, c'est le siècle de la chimie du goudron puis du bitume. Messieurs Lassailly et Bichebois, en 1904, déposent un brevet sur l'utilisation du goudron. L'année suivante, à Essy-les-Moulineaux, ils font un premier épandage sur la ville d'Essy-les-Moulineaux, réussi. Et là, c'est le top départ pour environ 120 ans jusqu'à nos jours, sur les routes très structurée, où il n'y a plus de poussière, puisque finalement, tout ça, le point de départ, c'est l'invention du véhicule. Mmh. Le tourisme, il y a de la poussière. Mettre des jolies lunettes, c'est sympa. Mais finalement, pour le conducteur, le confort de conduite et la sécurité a été amené par ces inventeurs qui étaient d'abord des chimistes, qui ont stabilisé, étanché et qui ont permis aussi au trafic de marchandises, à l'économie de se développer. Et ça, c'est la route d'aujourd'hui. Et ça va jusqu'à l'autoroute, qui est une chaussée très épaisse, très solide. Et puis, finalement, si je donne quelques chiffres en complément de ce que vous avez donné, Valérie, notre 1,2 million de kilomètres de rubans routiers ou autoroutiers en France, finalement, on a 22 000 kilomètres de routes nationales et autoroutes sur ce million, qui voient passer un tiers du trafic. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a tout type de structure de chaussée. 120 ans après, qu'est-ce qui se passe ? Là, depuis quelques années, on a une motorisation du véhicule qui nous challenge. C'est-à-dire qu'à nouveau, le véhicule change. Donc, motorisation qui devient électrique. Et puis aussi, un véhicule qui se barre de capteurs, qui devient un petit peu plus intelligent. Et donc, l'infrastructure routière est challengée.
Voilà, pour communiquer notamment avec ces véhicules intelligents. Alors, François, justement, nous souhaiterions que vous puissiez nous rappeler tout simplement comment on fabrique une route. Vous avez dit que la route telle qu'on la connaît émerge grâce à la chimie du goudron. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette technique routière classique ?
Parfaitement, bien entendu. Alors, de nos jours, on parle d'enrobé bitumineux. Donc, le goudron a été proscrit dans les années 60. Le bitume est la colle que nous utilisons pour venir agglomérer et donner une cohésion à des granulats. Donc l'enrobé bitumineux, ce sont des granulats enrobés de bitume. On les fabrique à 150-180 degrés dans des usines, donc à des températures relativement élevées. On le transporte jusqu'à un chantier et on le compacte sur le chantier. En fait, le matériau est chaud, assez fluide, très malléable. Ça se refroidit à 60 degrés. On a une chaussée toute neuve et on relance le trafic. Voilà la façon dont on fait ce petit millefeuille, puisqu'une structure de chaussée, je le précise, ce n'est pas juste un ruban. En fait, c'est une superposition de couches, chaque couche ayant une fonction. Ça peut être l'étanchéité, la durabilité, ça peut être aussi du confort de roulement, la sécurité routière, l'adhérence, et puis aussi l'absorption du bruit.
Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le ratio entre combien de bitume par rapport à combien de granulats ?
On a 80 en masse, c'est 95% de granulats pour 5% de bitume. Et si je parle en volume, si je fais une carotte de chaussée et qu'on la regarde à l'œil, on va voir qu'on a à peu près 80% de granulats en volume. On a des vides qui peuvent absorber le bruit, drainer l'eau et 10-12% de bitume.
Très bien. Et les chiffres globaux finalement pour la France, ça représente combien les consommations en fait de granulats et de bitume par an ?
Alors, les enrobés bitumineux qui sont produits et posés sur nos routes chaque année pour l'entretien de ce réseau, c'est environ 35 millions de tonnes d'enrobés chaque année en France, 27 millions de tonnes de granulats, 6 millions de granulats issus des vieilles chaussées que l'on recycle, parce que ça se recycle assez bien, et puis 2 millions de tonnes de bitume qui sont fournis par les grandes entreprises pétrolières, puisque le bitume est issu de la distillation du pétrole, donc d'origine fossile.
Si et non donne renouvelable.
Donc, non renouvelable à l'échelle humaine, oui. Malheureusement. On en reparlera par la suite. Et puis, si je fais un petit comparatif avec l'Amérique du Nord, aux USA, c'est à peu près 450 millions de tonnes d'enrobés cette année.
Ah oui, quand même.
On lui met place de 35 chez nous. Voilà.
Très bien. Alors, ce sont des chiffres quand même très impressionnants. Or, il me semble que les ressources minérales en granulats, donc pour nos auditeurs, en cailloux, hein, tout simplement, issus de carrières, ne sont pas renouvelables. Vous l'avez dit, le bitume, c'est un produit issu d'une distillation pétrolière qui est émettrice de gaz à effet de serre. Dès lors, est-ce que de telles consommations de granulats neufs et de bitume sont soutenables ?
Alors la soutenabilité de cette production annuelle, et c'est une question que l'on se pose tous les jours et depuis fort longtemps, donc le recyclage est important. La France n'est pas tout à fait dans un contexte extrême. Je vais prendre deux exemples. Le caractère insulaire du Japon fait que, puis aussi la culture japonaise fait qu'on recycle beaucoup dans ce pays. C'est un exemple pour nous d'ailleurs sur ce sujet. Et puis les Pays-Bas, là on a un contexte géographique particulier, très peu de ressources sur le pays, sur ce territoire. Donc l'essentiel est importé par bateau d'Écosse ou de Norvège. Et puis, donc, le recyclage à des très forts taux et a été une obligation. Donc, nous, la France, on est dans ce contexte-là. Techniquement parlant, notre chimie, nos matériaux sont de très bonne qualité et le recyclage est en train d'augmenter en France.
Alors, Nicolas, je me tourne vers vous. La situation du recyclage en France pour tous ces enrobés, est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres?
Grosso modo, le taux de recyclage moyen en France est de l'ordre d'un petit 20%. Voilà. Mais on fait en sorte de l'augmenter. Hein, parce que bien qu'on ait des carrières de bonne qualité, hein, pour des raisons de soutenabilité, on essaie d'accroître ce taux de recyclage.
Donc c'est l'avenir finalement, le recyclage des enrobés déjà mis en place?
Oui, c'est l'avenir. Aujourd'hui, techniquement, on maîtrise les procédés. L'enjeu, c'est plutôt des freins psychologiques, des freins organisationnels, de l'investissement. Mais il n'y a plus d'obstacles techniques, à proprement dit.
Si je vous suis bien, vous voulez nous dire qu'en fait, il y a des préjugés un peu culturels de la part des maîtres d'ouvrage. Si on leur propose une route recyclée, ils ont peur qu'elle ne soit pas de bonne qualité, qu'elle ne tienne pas la distance, si je puis dire.
Oui, c'est des représentations. C'est des représentations mentales de ce qu'est un produit neuf, quelque part, vis-à-vis d'un produit recyclé.
Très bien, j'espère que l'émission d'aujourd'hui permettra de faire passer le message. Alors, à cela s'ajoute quand même une question énergétique, puisque François, vous l'avez signalé, vous l'avez décrit, la technique classique de fabrication routière nécessite une application des enrobés à chaud, entre 150 et 180 degrés. Il faut obtenir cette température là aussi, déperdition d'énergie, émission de gaz à effet de serre, ça se passe comment ?
Alors en France, on a à peu près 470 usines réparties sur notre territoire qui produisent des enrobés dits à chaud à 150 degrés ou un petit peu plus. Depuis à peu près 20 ans, en Europe et tout particulièrement en France, ont été brevetées ou inventées des solutions d'enrobés dits tièdes fabriquées entre 100 et 150 degrés en général. Un scan tour américain a été organisé parce qu'on était très en avance sur ce sujet. De façon très pragmatique, il y a eu un copier-gagné de leur côté, donc ils l'ont développé à l'échelle de leurs centaines de millions de tonnes annuelles. Et si je fais la photographie en 2020 en France, on a à peu près 15% de notre production qui est à température abaissée. Donc on va gagner peut-être 15% d'énergie ou de CO2 émis. Et ça, c'est le challenge du moment. Et puis aussi de façon un petit peu plus réduite en quantité, mais on a aussi des enrobés dits à froid, produits à température ambiante, qui sont à destination des routes communales, intercommunales ou départementales, donc trafic inférieur à 300 poids lourds par jour, qui là aussi sont encore en train d'être développés. Il y a beaucoup de techniques et beaucoup de chimie sur ces sujets. Donc il y a un gros potentiel de progrès là-dessus.
Alors François, vous faites allusion aux poids lourds. Ça veut dire que le problème, c'est l'écrasement, c'est les déformations physiques en fait que sont capables d'encaisser, si je puis dire, les rubans routiers lorsqu'ils ont été appliqués à froid. Est-ce que c'est un résumé simpliste?
Non, on peut le dire comme ça. Donc les sollicitations extérieures, la route doit résister finalement à du trafic, des climats qui peuvent être extrêmes avec des variations de température qui peuvent être brutales. Des fois, en une journée, on peut avoir des variations très fortes. La route ne peut pas se dilater, se contracter. Donc on a des sollicitations diverses. Et en l'occurrence, pour les enrobés à froid, la limite technologique, c'est d'aller sur le plus fort trafic. Donc tout à l'heure, j'ai quand même expliqué qu'on avait des centaines de milliers de kilomètres où le trafic était modéré. Donc on a quand même un beau terrain de jeu pour développer des solutions très respectueuses de l'environnement.
Alors justement, je reviens sur ces économies de CO2 que vous indiquez en fonction du choix de la technique d'application et de la température. Nicolas, lorsqu'on a préparé cette émission, vous m'avez parlé d'expérimentations réalisées conjointement entre l'IFSTAR, donc l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, qui est maintenant une entité constitutive de la nouvelle université Gustave Eiffel, et Eiffage Route de l'autre côté. Et vous avez comparé les émissions de gaz à effet de serre entre les différentes techniques d'application, c'est bien ça ?
C'est ça, en fait, quelque part, en moyenne, une usine d'enrobée émet quelque part 17 kg de CO2 par tonne.
D'accord.
C'est à peu près une moyenne au doigt mouillé. Et effectivement, il y a une bonne dizaine d'années, un peu plus, on n'était même pas IFSTAR, on était Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, LCPC. On avait comparé, on avait fait trois inventaires de cycle de vie sur trois chantiers très différents, en Haute-Garonne, en Seine-et-Marne et sur le réseau des autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Et ce qu'on avait vu, c'est que la part de l'usine dans cet inventaire de cycle de vie, grosso modo, c'était environ 60%. Donc il y avait vraiment une...
60% en émissions de gaz à effet de serre.
Voilà.
Très bien.
Et qui était vraiment dans l'usine. Et donc la priorité donc, était de travailler sur l'industrie amont plutôt que sur la mise en œuvre.
Très bien.
Voilà. Alors ensuite, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un engagement. On a vu les freins psychologiques. Donc il faut engager la profession, engager les acteurs publics à mobiliser ce potentiel gisement de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc quelque part, quel est-il ce gisement? Si on regarde, les enrobés tièdes, on peut économiser 15% de CO2. Les enrobés, on va dire semi-tièdes.
Semi-tièdes, c'est combien?
Alors là, je laisserai François.
100 degrés moins, c'est entre 85 et 100 degrés.
Oui, c'est pas vraiment tiède en fait quand même.
C'est entre le froid, entre les enrobés à froid et les enrobés à chaud.
D'accord. On peut dire qu'il n'y a pas un consensus. Enfin, moi, j'ai vu des batailles entre
experts
sur ces questions. Donc grosso modo, quand on est de l'ordre de 100 degrés, on peut économiser 40% de CO2. Puis vraiment, si on est sur les enrobés à froid, là, on est à 90%. Voilà, donc ce qui donne que pour un enrobé à froid, pour un mètre carré de chaussée, on est 500 grammes de CO2 au mètre carré pour 10 centimètres de chaussée.
Alors, voilà. Ce sont quand même des progrès assez considérables. Quand on voit, comme vous l'avez dit, Nicolas, les gisements d'économie de gaz à effet de serre que cela représente. Et pour savoir si c'est bien connu, tout ça, des maîtres d'ouvrage, nous avons interrogé un représentant d'un conseil départemental. Je rappelle, ce sont les départements qui ont en charge l'entretien des routes dans notre pays, Monsieur Dominique Jomard, qui est directeur général adjoint du département de l'Hérault.
Bonjour Dominique Jomard.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint au département de l'Hérault. Vous êtes également le président du comité de formation, recherche, innovation chez iDream. Qu'est-ce que c'est iDream?
Alors l'iDream, c'est l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité. C'est une structure qui a été créée dans le sillage du Grenelle de l'environnement en 2010. Et qui a vocation de fédérer les maîtres d'ouvrage, qu'il s'agisse de collectivités, d'État ou de sociétés concessionnaires d'autoroutes, les bureaux d'études et les entreprises autour des différents sujets liés aux infrastructures pour la mobilité.
Dominique Jomard, est-ce que vous intégrez des critères liés au respect de l'environnement dans vos marchés publics routiers ?
Oui, on le fait assez régulièrement. Soit parce qu'on est dans un contexte environnemental particulier, c'est notamment le cas pour les terrassements selon qu'on est dans des sensibilités liées à la biodiversité, soit sur les problématiques de déchets, soit parce qu'on souhaite faire du chantier proprement dit quelque chose d'exemplaire du point de vue de la technique et pas forcément de la mise en œuvre. Et donc on peut retrouver pour les couches de chaussée notamment, l'application de l'éco-comparateur SEVE qui permet de juger les différentes offres en fonction de leur performance environnementale.
Est-ce que la réforme récente de la commande publique vous permet de conclure davantage de marchés innovation?
J'allais dire oui et non. Oui, en théorie, notamment avec le seuil à 5000 euros, le seuil porté à 5000 euros pour les marchés sans concurrence ni publicité préalable. Mais au département de l'Hérault, on avait déjà une grande tradition d'innovation. Donc, ce qui a été introduit récemment de la commande publique, sans doute utile à beaucoup de maîtres d'ouvrage, mais pour nous, ça ne nous a pas ouvert des portes plus grandes parce qu'on utilisait déjà largement l'arsenal existant, qui est relativement mal connu. Or, il existe quand même pas mal de possibilités offertes par le Code des marchés publics pour favoriser l'innovation.
Vous avez eu recours récemment à des routes d'innovation routière intégrant des substituts de bitume d'origine végétale. Quel retour d'expérience vous pouvez nous en faire?
Alors, il y a deux types de retours d'expérience. Le premier et le plus fondamental de mon point de vue, c'est comment se passe le chantier et quelle est la durabilité dans le temps. Alors le chantier s'est passé très très bien et le maintien des performances dans le temps, pour moi, on n'a aucun souci, à la nuance près que les chantiers sont relativement récents. Donc d'ici 2-3 ans, on sera complètement rassuré. Mais j'allais dire, au stade actuel, on n'a aucun état d'âme sur la mise en œuvre de ces techniques. Ça, c'est le premier type de retour d'expérience. Le deuxième type de retour d'expérience, il est lié à l'innovation proprement dit, c'est-à-dire ce caractère végétal, enfin du moins l'utilisation d'enrobés biosourcés, qui, en tant que maître d'ouvrage, nous permet de valoriser un peu notre sensibilité assez poussée aux questions environnementales. Et donc, il y a la possibilité de mettre en valeur, sur un domaine qui est parfois décrié d'un point de vue d'environnement, mettre en valeur le fait qu'on sait faire des routes proprement, alors on sait les concevoir, on sait les réaliser, c'est ce critère environnemental dont on parlait tout à l'heure, et on sait également mettre en œuvre des techniques tout à fait innovantes et prometteuses pour la suite, avec un bon niveau de performance sur au résultat.
Dominique Jemard, merci et bonne route alors.
Merci à vous.
Alors, c'est formidable. Après avoir parlé de recyclage, on parle de substitution totale, intégrale au bitume par des liants d'origine végétale. C'est presque trop beau pour être vrai, François.
Écoutez Valérie, on a pendant le petit rappel historique, on a balayé rapidement la chimie du goudron, maintenant la chimie, la pétrochimie et tous ses dérivés, notamment le bitume et les polymères qu'on utilise en ce moment dans nos techniques. On a un challenge très important. C'est que la chimie du végétal, alors chez FHROOT, on a développé des solutions de peu près une vingtaine d'années qui sont d'abord des adjuvants au bitume.
Qui réduisent la part du bitume.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas forcément passer d'un modèle, enfin on n'est pas binaire, on ne va pas passer du tout bitume au tout végétal. En fait, la plus grande carrière, on a parlé de recyclage, donc je vais quand même dire que la plus grande carrière que l'on a en France, ce sont les routes. C'est-à-dire que bien sûr, on fait de l'extraction de granulats neufs, mais si on regarde le million de kilomètres de chaussées que nous avons, et qui après une durée de vie de 20 ans, entretenu tous les 20 ans.
Ce sont des carrières à ciel ouvert, en fait.
En fait, c'est notre carrière. Donc la ressource, on l'a. Il faut la régénérer, la recycler encore plus, puisque c'est un matériau qui peut se recycler jusqu'à 100%, donc il n'y a pas de souci. Et donc la chimie du végétal, en ce moment, est en train de se développer, donc depuis deux décennies. On travaille, on a des ressources qui peuvent être la betterave, qui peuvent être le pin, l'arbre. Donc la sylviculture est une industrie très développée dans les Landes. On travaille sur des déchets, des coproduits plutôt, issus de l'industrie papetière. Donc ces coproduits, cette sylviculture et d'autres ressources sont en ce moment en train d'être utilisées dans nos chantiers innovants côté FHROOT. Donc ça, c'est quelque chose, de sur le plan de la chimie, de formidable. On change complètement la donne. Ce qui est sympa, ce qui est très utile sur le plan carbone, c'est que du fait de la photosynthèse, l'arbre, pendant des décennies, si je prends le pin, va stocker du carbone. Donc en fait, on est capable de faire des chaussées. Donc on a fait des analyses de cycle de vie de cette nouvelle filière. Et donc lorsqu'on livre un kilomètre de route, on a une petite dépense énergétique, forcément. Il y a des camions, on peut avoir un retraitement in situ avec moins de camions, mais on a quand même une dépense d'énergie. Par contre, d'un point de vue CO2, tout ce qui a été fixé nous permet d'effacer complètement les autres émissions carbone. C'est-à-dire qu'on fait un chantier carbone neutre, voire éventuellement créditeur. Mais en fait, donc c'est génial. Et donc, on doit travailler à bouger les curseurs. On parle d'une hégémonie du bitume à un mix. Moi, j'aime bien faire l'analogie avec l'énergie électrique, oui, avec un mix qui est nucléaire, issu du renouvelable, hydroélectricité et autres. Nous, on est pareil. On a le tout bitume et puis on est en train de compléter. Donc en France, j'ai parlé de 2 millions de tonnes de bitume chaque année. Là, on est a priori sur une ressource de 20 000 tonnes de ressources végétales issues du pain ou de coproduits de la papeterie.
Oui, donc c'est une ressource limitée.
Voilà, donc là, je suis en train de parler d'1%. Ouais. Mais on a d'autres pistes, mais le potentiel, il est formidable. Après, je peux vous donner trois exemples.
Alors attendez, juste un point, François. Tout à l'heure, Monsieur Jomard a parlé du calculateur SEV. C'est important qu'on en parle à nos auditeurs parce que finalement, il faut qu'ils sachent qu'on n'est pas dans l'affirmation péremptoire, on est bien dans la preuve. Oui. Qu'est-ce que c'est que le comparateur SEV ?
Le comparateur SEV, c'est un comparateur qui est utilisé dans toute la profession, qui est unique, commun, qui a été reconnu par l'ADEME donc de façon très indépendante. Et donc, cet éco-comparateur peut être utilisé lorsque l'on répond à un marché, l'entreprise, en fonction des distances de transport, des hypothèses qu'elle fait, de l'utilisation de tel type d'usine. Est-ce que je fais un enrobé à chaud, un enrobé tiède, un enrobé à froid ? un liant de type bitume ou un liant de type végétal, 0% de recyclé, 50% de recyclé, tous ces curseurs sont notés. Et donc, il y a un calcul qui est fait. Et donc, lorsqu'on répond à un marché, il y a des euros, mais il y a aussi du CO2.
Voilà. Alors, c'est très important que nos auditeurs comprennent que quand l'entreprise calibre sa proposition technique pour répondre à l'appel d'offres de la collectivité, on est en mesure, grâce au comparateur SEV, de sortir un bilan carbone. Et du coup, le client peut choisir les yeux ouverts la solution qui est la moins carbonée.
Et donc, on a la moins-disance, on va dire économique, qui est souvent une règle malheureusement appliquée, et la mieux-disance. Et la mieux-disance sur le plan de l'impact CO2, c'est quelque chose qui doit monter en puissance.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de produits homologués aujourd'hui que vous avez déjà pu commercialiser et qui représentent cette innovation de la chimie verte ?
Alors, l'innovation est en mouvement, mais depuis 2017, très récemment, donc assez récemment, on a eu différentes innovations qui ont été lauréates du ministère des Transports dans un cadre d'un concours national du comité innovation route et rue, Recital, puis Biofalt, et puis récemment, nous développons une autre solution Biochrome. Recital et Biofalt, ce sont des enrobés jusqu'à 100% de recyclés.
Ah oui.
Donc quasi recyclage intégral possible. Et puis, on additive, on régénère ces matériaux vieux et on leur redonne 20 ans de jeunesse donc pour un cycle nouveau. Donc là, on a 30-40 chantiers qui sont suivis par les services de l'État en ce moment. Enfin, un certain nombre est suivi par les services de l'État. Tous les jours, on en fait. Donc, au moment où je vous parle, nous en faisons.
Mais c'est de l'économie circulaire, François. C'est vraiment, on ne peut pas trouver un meilleur exemple d'économie circulaire. Vous décollez la route, vous la concassez et vous régénérez le vieux bitume sans en mettre du neuf par ce liant d'origine végétale.
Économie circulaire, made in France, parce qu'en plus, la chimie du végétal, on est très français et très européen. Donc, on est plutôt local. Donc, on va dire local, national, éventuellement européen. Et puis on est à température ambiante, si je retraite la chaussée in situ avec une machine adéquate, ou éventuellement fabriquée en usine à des températures d'enrobé tiède. Donc on a le faible trafic jusqu'à l'autoroute, puisque bien évidemment ce que je suis en train de dire, c'est valable sous tout trafic. Voilà.
Mais c'est très cher alors ?
J'ai parlé de Recital, donc une chaussée qui est 100% recyclée, que je viens... réjuvener et lui donner 20 ans de jeunesse avec un additif végétal au mètre carré, c'est le même prix alors qu'on est créditeur en carbone. Donc wow. le prix est complètement identique à une chaussée classique, voire un peu moins cher parce qu'on fait du recyclage à 100%. Et puis tout un tas d'aspects, positifs complémentaires. Un kilomètre retraité in situ, c'est 80 camions d'apport des semis de 25 tonnes qui viennent transporter des matériaux en moins sur la route. Donc c'est beaucoup de nuisances, bruit, du trafic.
C'est un chantier apaisé.
Exactement.
Alors ça, c'est vraiment très important. J'espère vraiment que ces innovations seront connues et diffusées le plus largement possible. Nicolas, je me tourne vers vous. En tant qu'expert scientifique de la route, est-ce que vous pensez aussi que la route du futur va se passer du bitume ?
Donc, est-ce qu'elle va se passer du bitume ou est-ce qu'elle devra se passer du bitume ? Moi, je pense que c'est plutôt elle devra, parce que c'est quelque part, c'est une ressource stratégique. Et donc, dans ce cadre, on mène des projets, on mène un projet plutôt fondamental, financé par l'Agence nationale pour la recherche, que l'on mène avec Eiffage, qui s'appelle Algoroute. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans ce projet ? On produit du liant, de la colle pour le bitume, de la colle pour la route, à partir de micro-algues. D'accord ? Donc, les micro-algues se nourrissent du soleil, se nourrissent de CO2. Et quelque part, on recrée du bitume pour les routes de demain. Alors, c'est pas encore mature.
En accéléré.
Donc, c'est pas encore tout à fait mature. On est dans un projet de R&D, mais vraiment, c'est vraiment un projet très stratégique, quelque part, pour éviter de tomber dans une dépendance vis-à-vis de ressources pétrolières.
Oui, dans un contexte géopolitique souvent tendu. Alors justement, ce contexte géopolitique, François, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Parce que finalement, le bitume émet des gaz à effet de serre, mais en plus, on peut subir des interruptions dans les approvisionnements et aux portes de l'Europe. Hein, la guerre fait rage. Donc, pour ces raisons, est-ce que vous pouvez nous expliquer, lorsque nous avons préparé cette émission, vous m'avez parlé d'un grand projet international qui s'appelle BioRepavation. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, tout à fait. Donc, qui dit bitume dit pétrole, contexte géopolitique mondial tendu. Et de ce fait, pour anticiper l'avenir, avec l'Université Gustave Eiffel et d'autres partenaires européens et également américains, nous avons monté un projet. Enfin, nous avons été lauréats d'un appel à projet européen, BioRepavation, donc refaire la route avec des additifs ou des liants d'origine végétale. Nous avons démontré pendant deux ans de travail, en laboratoire et sur quelques tronçons de route qui ont été testés sur le manège de fatigue accélérée de l'Université Gustave Eiffel.
Qu'est-ce que c'est un manège de fatigue accélérée, juste un peu.
En fait, si vous voulez, on fait un petit anneau, donc un cercle, donc une route qui tourne en rond, sur laquelle, pendant quelques mois, on va imposer 20 tons de trafic poids lourd. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt que de faire des routes et d'observer sous
c'est
trafic
un
réel,
test, en fait.
C'est un stress test.
D'accord.
Très musclé et accéléré. Donc, en l'espace de quelques mois, on arrive à faire défiler une vie entière. Et donc, on voit comment ça fissure, comment ça s'arrache, comment ça meurt. Ce qui s'est passé, c'est que les liants ou les enrobés que nous avons fabriqués à 50% de recyclés ou plus, et ces liants, eh bien, finalement, se sont comportés mieux que les enrobés classiques bitumineux. C'est-à-dire que l'enrobé de référence qu'on met sur autoroute, il a fissuré, comme dans les livres, comme on avait prévu, à 1 million de charges lourdes de 13 tonnes, tandis que certains autres tronçons, on va dire plus respectueux sur le plan environnemental et puis éco-conçu, ont tenu plus de 2,5 millions de charges et on a dû arrêter le test puisqu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter le test. Et puis voilà, donc c'était quand même quelque chose d'assez formidable. C'était tellement... donc c'était une première mondiale. Donc première mondiale. Le consortium était très intéressant aussi et donc le représentant technique de l'administration fédérale américaine a fait le voyage pour venir regarder, parce que c'était un petit bout de chaussée de 130 mètres, il a fait le tour de la chaussée pour vérifier que c'était possible. Parce que nous avons des intérêts français, j'ai parlé des Landes en France par exemple, mais l'État de l'Iowa aux États-Unis qui est très agricole aussi a... cette dynamique, il ne faut pas être caricatural avec nos amis américains. Donc, ils sont vraiment aussi, ils se projettent dans cette chimie du végétal.
Alors, franchement, en tant que directeur de développement durable du groupe Eiffel, j'ai quand même envie de dire comment ça se fait qu'on ne se jette pas sur ces innovations qui permettent d'alléger les émissions de gaz à effet de serre tout en rénovant le réseau routier, ce qui est indispensable. Alors, Nicolas, vous représentez l'État quelque part ici. Est-ce que l'État a les moyens de doper le recours à la route recyclée sans bitume, puisqu'on voit que tous les tests montrent que c'est la solution d'avenir?
Ben on est toujours dans un rapport de bâton et de carotte, quelque part. Donc oui, l'État, il est là avec son bâton pour faire évoluer les normes, intégrer les connaissances nouvelles, transposer les directives, éventuellement les faire appliquer, voilà, notamment au plan environnemental. Donc ça, c'est le bâton. Et ça, notamment dans le cadre de l'IDRIM, donc Dominique Jomard l'a évoqué,
on en a parlé.
Donc il y a tout un travail un peu réglementaire et d'accompagnement des guides méthodologiques sur le sujet. Et de l'autre côté, c'est la carotte, c'est-à-dire qu'en même temps que je tape, il faut que j'ouvre des perspectives. Et donc l'État, finalement, c'est aussi un aiguillon en matière de recherche, développement, innovation nationale et européenne, hein, qui va favoriser l'émergence d'innovation, qui va corriger les défaillances de marché, hein, pour permettre finalement aux innovations de fleurir et permettre la diffusion des innovations qui ont fait leur preuve à petite échelle.
Alors Nicolas, j'ai envie de vous dire aussi, est-ce que l'État n'a pas un devoir d'exemplarité? Parce que l'État, c'est aussi la commande publique. Et donc, depuis les lois Grenelle, titre 2 hein, de la loi Grenelle, l'État se doit d'être exemplaire. Il est opérateur d'infrastructures de transport également. Alors, comment cette exemplarité est-elle mise en œuvre?
Voilà, à nouveau, une dualité hein, dans le rôle de l'État. Il est à la fois, on va dire, stratège, hein, où quelque part, il se doit en capacité d'expérimenter avant les autres les innovations de rupture, et aussi en tant qu'opérateur, Hein, il doit préempter les expérimentations. Donc, quelque part, être exemplaire ou, on va dire, champion, le champion de l'innovation. Voilà, donc, mais je pense que quand même, enfin, si on, l'État, dans, il y a l'État national, mais je pense que les collectivités locales ont vraiment un rôle très, très important à jouer
tout à
par
fait,
rapport
on
au linéaire avec... de kilomètres. Et c'est ouais. vraiment cette, à cet échelon départemental, aujourd'hui, que l'innovation routière prend toute sa place.
Alors François, j'ai cru comprendre qu'on était plutôt bon en France. Pour une fois, on a la possibilité d'un cocorico à peu près consensuel sur notre capacité à faire la route.
Oui, tout à fait. Donc dans les corps que sont les ingénieurs des ponts et chaussées ou les ingénieurs des travaux publics de l'État ont depuis bien longtemps établi une méthodologie française qui est basée, qui a des fondements très rationnels, qui ne sont pas empiriques, contrairement à pas mal de pays en ce moment même. Donc là, je dirais, cette technique française rayonne dans le monde entier, plutôt dans la partie francophone, mais au-delà, je pense. Et puis, il faut quand même citer ce que font nos voisins. Et je ne peux pas ne pas dire qu'en 1987, il y a eu une loi américaine qui a fléché, le Congrès a voté 150 milliards pour la R&D dans les routes aux États-Unis.
Oui, évidemment.
Donc, toutes les grandes universités ou les départements des transports ont reçu une manne importante pour structurer des méthodologies et une stratégie américaine. Ça s'est appelé le programme SHARP et SuperPAV. Et les grandes universités, Berkeley, Penn State, ont toutes bossé pour ce faire. Donc maintenant, si je fais une photographie à l'heure actuelle, on a deux grandes méthodologies au niveau mondial, oui. La méthode française, la méthode américaine, qui sont couramment utilisées. Après, si je reviens plutôt sur l'aspect français, il y a un lieu, un cadre d'échange entre les acteurs publics et privés qui s'appelle l'IDRIM, qui a été cité lors de l'interview de Dominique Jomard. Donc cet Institut des routes permet de façon collégiale d'établir ou de rénover les règles, d'établir des guides, des avis techniques sur les innovations, puisque la technique bouge. Et ça, c'est une particularité que l'on a et qui fonctionne bien.
Très bien. Alors, merci messieurs. Ce que je retiens, c'est que la route est indispensable aux échanges d'une société vivante et prospère et qu'elle vit actuellement une profonde relecture contemporaine écologique qui se traduit notamment par deux grands volets. D'abord, la fin annoncée du liant pétrolier, le bitume, grâce à des substituts végétaux, les algues. Vous avez parlé de betteraves, vous avez parlé de pain. Et puis par l'allègement de la pression sur les ressources minérales non renouvelables, c'est-à-dire les granulats, grâce à leur recyclage intégral. Et je vous propose maintenant de passer à la seconde partie de notre émission consacrée à la route système.
Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie.
Alors, quand on parle de route du futur, on a intuitivement une image véhiculée sans doute par le cinéma, la science-fiction. Ce sont des véhicules bizarres, hyper connectés, intelligents, qui sont plus ou moins en lien physique avec le support, qu'il soit routier ou non. Alors, qui dit véhicule intelligent, dit route connectée ou ruban connecté, communiquant en interaction avec son environnement, bien au-delà d'ailleurs des seuls véhicules qui l'empruntent. Une route qui peut produire de l'énergie, une route qui peut signaler ses propres besoins de rénovation. Est-ce que c'est cela la route système ? Nicolas, est-ce que vous pourriez nous définir cette route système ?
Voilà, alors c'est peut-être un peu compliqué ma définition de route système, mais en fait c'est d'étudier la route, non pas comme on la faisait avant, mais quelque part dans toute sa complexité, dans toutes ses relations à l'environnement, son fonctionnement, dans les nouvelles interactions, dans ses finalités. Donc en fait, c'est quelque part, c'est tout sauf la juxtaposition de composants. Voilà.
Très bien. Donc finalement, c'est plus du tout une approche linéaire de la route. C'est vraiment l'ensemble de ses fonctionnalités et également la conjugaison de nombreuses disciplines pour créer cette route système. François, vous avez quelque chose à ajouter sur la route système ?
J'ai un bel exemple qui peut illustrer le changement de mentalité. Donc avant 2015, l'ingénieur routier faisait une route qui permettait d'aller du point A au point B. Il était plutôt de formation physicien ou chimiste. On a beaucoup parlé de chimie. C'était quelque chose d'assez classique, même si c'est très technique et intéressant. Après 2015, que se passe-t-il ? Appel à projet ADEME, intitulé « Route du futur ». L'État nous challenge justement parce que le véhicule est en train de bouger, parce que les besoins urbains ou de liens entre les métropoles et le monde rural bougent. Les besoins sont importants, donc on nous challenge. Et dès lors, l'ingénieur routier que j'étais ou mes collègues, on a commencé à s'interfacer avec d'autres spécialités. Des ingénieurs qui travaillaient sur la recharge électrique du véhicule, sur la lumière, sur le bruit, sur le confort, le bien-être, sur la façon dont la route peut interagir, donc non pas seulement avec un véhicule, mais aussi avec le bâti. Donc c'est finalement la route couteau suisse et la route dans un système plus global.
Très bien. Alors, la route comme système, cela concerne aussi son usage nocturne et son éclairage. Or, la déperdition d'énergie et puis la pollution lumineuse aussi, la nuit, sont décriées. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont actuellement proposées pour y remédier ?
Oui, alors, Eiffage Route, Eiffage Énergie Système, depuis 2015, justement, on a interagi et nous avons été lauréats en 2017 à l'occasion de ce concours national d'innovation qui est le comité innovation route et rue, avec une solution intitulée « Luciole d'éclairage au plus juste ».
Très bien. Alors, ça tombe bien parce que nous avons interrogé le spécialiste de la voirie système du point de vue énergétique en milieu urbain, c'est Laurent Verlaguet. Laurent, c'est à vous.
Bonjour Laurent Verlaguet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de marché Ville et Collectivité Eiffage Énergie Système. Vous dirigez la marque Expert Cité chez Eiffage. Cette marque met en exergue tous les débouchés numériques en matière urbaine. Alors, justement, vous avez développé avec Eiffage Route une solution d'éclairage urbain qui se nomme Luciole, qui est révolutionnaire à plusieurs titres. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette révolution ?
Très volontiers. En fait, Luciole est une solution totalement innovante qui permet d'associer deux composantes. À la fois un enrobé qui présente une granularité particulière comparable à celle d'un béton bitumeux très mince ou d'un enrobé phonique. Cet enrobé réfléchit la lumière de façon diffuse grâce à sa composition qui intègre des éléments particuliers de couleur claire. Et de ce fait, ses propriétés photométriques permettent l'installation d'une énergie d'éclairage plus faible et d'un meilleur confort visuel. Et à cela, nous ajoutons un système d'éclairage public à LED qui intègre un détecteur automatique de mouvement qui adapte l'éclairage à chaque candélabre en fonction des besoins des usagers. Donc la détection de mouvement peut se faire soit avec différentes technologies, soit de l'analyse vidéo, soit un effet Doppler ou de l'infrarouge, peu importe. Et la puissance délivrée est ainsi abaissée de 80% en mode réduit lorsque le système ne détecte aucune présence ou lorsque le choix de la plage horaire a conduit à cette programmation.
Mmh. Vous nous annoncez donc un confort supplémentaire pour ceux qui vont rouler également.
Tout à fait. Alors, lorsque les véhicules sont en déplacement, nous allons avoir l'éclairage des phares des véhicules donc, qui vont illuminer la chaussée. Mais comme nous utilisons un enrobé beaucoup plus clair, on a de suite une bien meilleure visibilité. Et les systèmes de détection que nous utilisons sur les luminaires, aujourd'hui, sont capables effectivement de détecter la présence de piétons, de cyclistes ou de véhicules en approche. Et donc, bien sûr, d'éclairer la chaussée en fonction des conditions qui sont présentées.
Alors, fort de ce projet Luciole, est-ce que vous avez de nouvelles idées de collaboration possibles entre routiers et énergéticiens ou professionnels du numérique ?
Bien sûr, plus nous irons, plus nous allons rajouter de l'intelligence, je dirais, à toutes ces informations. Donc nous avons déjà sur Luciole la possibilité de rajouter des services supplémentaires pour améliorer la qualité de vie des citoyens surtout et d'optimiser les investissements. Comme par exemple, utiliser les luminaires pour la détection d'encombrants sur les points d'apport volontaires, la détection de places de stationnement ou de livraison, ou encore le comptage de piétons, de cyclistes ou de véhicules, en plus des fonctionnalités qui sont données avec le procédé Luciole. Voilà. Nous avons d'autres pistes, bien évidemment, comme Guide Encrypt, par exemple, qui permet de mettre en avant et en évidence un virage avec des plots lumineux et un revêtement ayant des propriétés particulières. Nous travaillons également beaucoup sur la route connectée, avec tous les échanges possibles entre les véhicules et les infrastructures. On travaille énormément également sur l'analyse des données des revêtements, puisqu'il est fort probable que demain, la route et les véhicules vont communiquer. Donc la route sera une source d'informations supplémentaires à destination des véhicules. Et bien sûr, toute une veille technologique permanente pour sourcer et tester toutes les innovations. Voilà, nous avons un pôle de recherche et de veille très important qui nous permet de tester toutes ces solutions avant le déploiement, bien évidemment.
Bah écoutez, j'ai envie de vous dire vivement demain.
Très volontiers.
Alors finalement, ce que je retiens de cette innovation, l'association d'un revêtement routier clair, une amélioration de la consommation énergétique au sens que l'on n'éclaire que lorsqu'il y a du passage, mais on ne concède rien à la sécurité. C'est-à-dire que, bien au contraire, le sujet sécurité routière en sort grandi, notamment sur la sécurité. Nicolas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que la route intelligente sera plus sûre?
Évidemment, enfin, je pense que c'est un objectif fondamental. Donc, essayer de trouver ce compromis. Enfin, on ne met pas de compromis sur la sécurité.
Voilà.
Et on essaie de trouver des compromis, notamment, par exemple, sur l'éclairage. Donc, donc j'ai un exemple, un développé par Eiffage et une société qui s'appelle Holychrome. Hein, c'est une peinture intelligente, quelque part, hein, qui s'appelle le Minochrome, hein, qui permet, par exemple, de rendre visible la signalisation de nuit, quelque part, d'aller rendre phosphorescente, quelque part, par exemple, les pistes cyclables. Aujourd'hui, c'est le principal cas d'usage de cette peinture. Mais l'enjeu pour nous, c'est quand même d'aller pouvoir mettre cette peinture intelligente sur les routes ouvertes. Et donc, aujourd'hui, on accompagne Eiffage et Holychrome dans la preuve de sécurité, hein, qui va permettre rendre possible ou déployable cette peinture sur les routes.
Donc si je vous comprends bien, Luminochrome, ça permet d'avoir une signalétique au sol parfaitement visible en pleine nuit, sans réverbère.
Voilà, c'est quelque part, hein, M. Verlaguel a dit, c'est la visibilité hein, égale sécurité. C'est un raccourci, mais c'est quand même ça.
Très bien. Alors, on a parlé de démonstrateurs aussi, et effectivement, fleurissent un peu partout en France aujourd'hui des démonstrateurs de villes durables qui sont labellisés par l'État la plupart du temps et qui permettent de mettre en œuvre cette approche transversale des différentes disciplines pour la ville durable et pour la route durable. Alors, on a un grand projet d'aménagement urbain à Châtenay-Malabry qui est piloté par Eiffage Aménagement. Ça s'appelle La Vallée, un futur éco-quartier de 20 hectares sur l'ancien site de l'école centrale. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots du point de vue de la route, ce futur éco-quartier, donc la voirie durable en ville?
Écoutez, Valérie, depuis le début de l'échange, nous avons évoqué plein de briques technologiques et des choses très tangibles qui se développent à droite, à gauche, en général testées indépendamment. L'approche systémique, l'approche globale, ça doit aussi s'appliquer sur la façon de tester ces innovations et de les regrouper en un même lieu, parce qu'elles peuvent aussi se nourrir l'une et l'autre. Donc, quelques exemples sur l'éco-quartier de La Vallée, à Châtenay-Malabry. Donc, Luciole, qui a été présentée, sera bien évidemment déployée sur cet éco-quartier. Donc, on va éclairer au plus juste, donc des économies, mais aussi moins de pollution lumineuse et également la notion de data, parce que les candélabres deviennent intelligents. Le recyclage à 100% de tout ce qui a été déconstruit, c'est-à-dire que le béton, les immeubles qui ont été, les bâtis qui ont été déconstruits.
Excusez-moi, je vous interromps, oui. François, mais ça, c'est incroyable. Effectivement, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être fréquenté l'école centrale, la totalité des bétons de l'école centrale ont été déconstruits et réintégrés, seront entièrement réutilisés sur site. C'est de l'économie circulaire.
Grande première, donc là, à nouveau, voilà, donc c'est l'intégralité de ce qui est déconstruit, in situ, est retraité, chaque granulat est reconcassé à la bonne taille, on rentre complètement dans les normes.
On ne jette rien.
Et on repart pour un nouveau cycle de construction, à la fois dans des bétons de construction et aussi dans les voiries et les aménagements routiers. Donc c'est quelque chose de très vertueux et on est dans de l'économie circulaire et locale une fois de plus. Également, des parcours de fraîcheur seront mis en exergue Vous connaissez sans nul doute donc l'effet de l'îlot de chaleur urbain, donc cette appellation qui finalement traduit le fait que les matériaux de la construction peuvent emmagasiner avec une inertie thermique la journée la chaleur reçue du soleil et la nuit la restitue finalement comme un radiateur qu'on ne souhaiterait pas la nuit. Donc ça nous empêche de mieux respirer et donc ce que l'on appelle une canicule, de façon consécutive plusieurs jours et nuits.
Et le corps ne se repose jamais.
Exactement. Donc ça peut être un vrai problème sanitaire. On le sait, l'épisode de 2003 a été malheureux. Donc créer des parcours de fraîcheur ou des îlots qui permettent à la population riverain de se rafraîchir et d'avoir un climat apaisé, nous on sait que l'enjeu c'est à peu près 6 degrés. On est capable, en jouant sur les matériaux, on est capable de gagner 5-6 degrés. Ça, c'est ce que l'on souhaite faire. Donc, on a notamment en ce moment une thèse avec Lézier, qui est membre de l'Université Gustave Eiffel, sur ce sujet. Donc, on va jouer avec l'aménagement paysager, le cycle de l'eau et un choix de matériaux dans l'aménagement routier.
Pour limiter cette captation de chaleur et cette restitution.
Oui.
Alors, je vous interromps, François, parce que la toute première émission des Villes et des Hommes était justement consacrée aux îlots de fraîcheur.
Oui,
et
important.
J'invite donc les auditeurs à le retrouver sur le site internet de Radio Immo. Alors, cette approche système se renforce avec l'avènement du Big Data. Ça a été rapidement évoqué par Laurent tout à l'heure. La route étant un formidable réservoir producteur de données à aller exploiter pour en améliorer encore l'usage. Et nous avons effectivement, pour nous en parler, choisi d'interviewer un spécialiste du sujet, François Castan, directeur de la stratégie digitale du réseau APRR.
Bonjour François Castan.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la stratégie digitale et data APRR et j'ai deux questions à vous poser très importantes ce matin. Vous qui êtes directeur de la stratégie digitale du réseau autoroutier APRR, dans quelle mesure le Big Data contribue-t-il à la gestion des 2400 km de votre réseau ?
Je serais tenté de dire tous les jours, parce qu'en fait c'est véritablement un phénomène qui a tendance même à s'accélérer, à prendre de plus en plus de place. Ce qui est un petit peu délicat, c'est de savoir déjà ce qu'on entend par Big Data. Big Data, c'est un mot valise qui veut dire tout simplement données massives, mais qui aujourd'hui désigne aussi bien les grandes sociétés comme les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui brassent un nombre hallucinant de données et toujours plus de données. Mais c'est aussi cette idée qu'on peut donner du sens à ce qui n'en a pas a priori, c'est-à-dire exploiter des données qui, prises unitairement, n'ont pas nécessairement de valeur, mais en revanche, prises ensemble, croisées, elles peuvent donner du sens. Donc aujourd'hui, le groupe s'est lancé sur cette voie en se disant que pour maintenir sa performance, son excellence opérationnelle et créer de la valeur ajoutée, il fallait dans un premier temps mettre en place une gouvernance de la donnée pour la connaître, la maîtriser, l'utiliser et enfin la valoriser. Donc chez nous, le Big Data prend cette forme-là. Donc c'est d'abord une stratégie qui est mise en place et ensuite des cas concrets de démonstrateurs, notamment sur la maintenance prédictive, où on essaie d'avoir très rapidement des résultats. La maintenance prédictive, c'est tout simplement le principe de la meilleure panne, c'est celle qui n'arrive pas. Donc on essaie de ne pas avoir de panne et de prévoir les pannes pour pouvoir les entretenir le matériel avant qu'il tombe en panne. Donc ça, c'est l'idéal, enfin le rêve de tout exploitant, de ne plus avoir de panne. C'est aussi un démonstrateur sur la lutte contre la fraude, qui utilise donc toutes ces données massives pour essayer de voir où est-ce qu'il va y avoir potentiellement de la fraude. Et c'est aussi la gestion de notre patrimoine, parce que, comme vous le savez, on a 2400 km d'autoroute avec beaucoup d'ouvrages d'art, beaucoup de linéaires, enfin 2400 km de chaussées. Et tout ça, il faut l'entretenir et il faut scénariser la maintenance. Et on utilise donc toutes ces données patrimoniales pour faire des différents scénarios de maintenance pour nous permettre de mettre le bon euro au bon endroit, au bon moment.
Voilà, c'est la réflexion en amont. Et maintenant, on va parler du concret, puisqu'on évoque beaucoup l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir améliorer l'expérience des utilisateurs d'autoroutes ?
Ah, c'est pareil, intelligence artificielle, c'est un mot qui est très très entendu, très utilisé actuellement. C'est pas récent du tout. Aujourd'hui, elle a pris de nouvelles formes avec ce qu'on appelle le deep learning ou le réseau de neurones qui est vraiment ce qu'on fait de plus élevé en termes d'intelligence artificielle. Mais ça a commencé il y a des années avec les systèmes experts. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est le moteur qui est alimenté par la donnée. Donc, big data et intelligence artificielle sont intimement liés. D'un côté, vous avez le carburant, que sont les données, et de l'autre côté, vous avez le moteur, qui est l'intelligence artificielle. Donc, pour vous donner un cas concret d'application, à Grenoble, donc à la rentrée de septembre 2020, nous allons mettre en place un système de comptage du nombre d'occupants pour la voie spéciale de covoiturage à l'entrée de Grenoble sur 8 km. À noter que c'est un aménagement qui se fait sans élargissement. Hein. Il s'agit juste simplement d'une intensification de l'usage de l'autoroute, c'est-à-dire qu'on utilise les voies mieux, mais on n'en fait pas plus. Et ça permettra de fiabiliser, bien entendu, le temps de parcours de tous ceux qui font leur trajet quotidien. Et alors, où est l'intelligence artificielle là-dedans? Ben, c'est simplement que grâce à tout un système de caméras et d'autres différents capteurs, on arrive à reconnaître les silhouettes qui sont dans le véhicule et à dire avec une certitude tous les jours meilleure, puisque le principe de cette intelligence artificielle, c'est qu'elle apprend. Donc plus elle aura de données, plus elle sera pertinente. Et on arrive aujourd'hui, avec une très bonne fiabilité, à dire ben, vous avez 2, 3, 4 véhicules occupants dans le véhicule. Pardon. Donc cette intelligence artificielle, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de fiabiliser l'usage de cette voie, parce que, comme vous le savez, elle sera réservée aux véhicules ayant plus de 2 occupants, et il faut qu'on puisse pouvoir dire bah non, vous n'y avez pas droit, ou alors oui, vous êtes sur la bonne voie.
Bon, en tous les cas, François Castan, ça nous offre un avenir assez étonnant qui va faciliter peut-être la circulation de tout le monde. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une bonne journée.
Merci, bonne journée à vous.
Alors Nicolas, route intelligente, intelligence artificielle, est-ce que vous avez des expériences étrangères en tête, particulièrement novatrices ?
Alors moi ça me parle beaucoup, hein. Enfin, moi je suis chercheur en vision par ordinateur, donc en big data ou intelligence artificielle. J'utilise moi depuis 15 ans les caméras pour les transformer en stations météo. Voilà, c'est mon hobby de chercheur, entre guillemets. Mais sur une expérience étrangère novatrice, j'ai en tête un service particulièrement intéressant en Australie. Ils utilisent en fait, ils autorisent en temps réel, ils ont des gros camions, les Australiens, et ils ont un service quasi en temps réel qui permet aux camions, qui autorise les camions à circuler là où ils ont le droit. C'est-à-dire là où ils ne vont pas abîmer la route ou les ponts. Mmh. Et ça, en quasi-temps réel, avec une charge, c'est-à-dire le poids des camions est déterminé en temps réel.
D'accord, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs dans la route qui permettent de déterminer le poids du camion et savoir s'il est autorisé ou pas à prendre cette voie.
Alors, dans le cas australien, les capteurs sont dans les camions.
Ah oui, d'accord, ouais. Très bien.
Mais on peut imaginer la réciproque, et on travaille notamment avec le groupe FH. Et je citais peut-être la société, une start-up, Alta Road. Qui travaille sur ce genre de solution, cette fois-ci du côté routier. Et donc, les chercheurs australiens, ils ont développé un service, une entreprise de certification, hein, une espèce de tiers de confiance. Mm-hmm. Entre l'opérateur d'infrastructure qui peut être frileux parce qu'il voit un poids lourd exceptionnel qui va aller sa route, et l'opérateur qui lui veut faire au plus court. Et donc quelque part, il certifie que finalement les deux parties finalement peuvent faire confiance. Finalement, dans le trajet, il est optimum pour les deux parties.
Très bien, je vous remercie. Alors, nous arrivons quand même au terme de notre émission. Encore beaucoup de choses à dire, mais il faut bien s'arrêter. Alors, François, je me tourne vers vous. Un mot de conclusion, ensuite Nicolas, et puis j'essaierai de faire une synthèse.
Pour être bref, l'histoire se répète. Il y a 120 ans, la voiture est inventée. Les ingénieurs développent leur nouvelle route et construisent les routes telles que nous les connaissons. Et à nouveau, le véhicule et la route, les deux vont de pair, parce que les voitures ont une motorisation nouvelle. donc besoin d'aménager la route.
Hybride, électrique.
Etc. Donc il faut aussi concevoir les aménagements de recharge avec différentes typologies possibles de recharge électrique. Et puis le véhicule, on en parle, est de plus en plus connecté, intelligent et lié à l'infrastructure avec des capteurs qui ne sont pas forcément uniquement dans le véhicule, mais aussi dans l'infrastructure. Et c'est bien la communication qui va devenir la règle.
Très bien. Nicolas, l'approche système ?
Alors, pour moi, c'est vraiment le sujet qui me... Au cœur de mes motivations, cette approche système, elle a vraiment pris tout son essor en milieu urbain, quelque part, compte tenu des enjeux prégnants, les émissions de gaz à effet de serre, la congestion, la qualité de vie, le bruit. Voilà. Donc, quelque part, c'est vraiment là que c'est né. Mais cette approche système, aujourd'hui, je pense que, quelque part, elle doit être étendue en interurbain pour améliorer l'insertion ou l'intégration, la relation des autoroutes au territoire traversé à travers une approche revisitée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque part de passer des enjeux de la compensation environnementale à des enjeux d'approche beaucoup plus intégrés, basés sur les connaissances nouvelles. Donc voilà, un peu de teasing et au-delà un bouclage. Là, je ne veux pas opposer ville et campagne, mais par contre, quelque part, on les considère quelque part en silo. Et donc, je pense qu'il faut travailler un meilleur bouclage, boucler le système entre milieu urbain et interurbain, quelque part, parce qu'aujourd'hui, on parle d'étalement urbain. Voilà, il n'y a pas d'équilibre trouvé parce qu'il n'y a pas d'incentive pour le faire.
Très bien. Voilà. Alors, j'ai tenté une conclusion à ces échanges quand même très fournis. Donc, je miserai sur trois grandes thématiques dominantes qui ont été évoquées aujourd'hui. Tout d'abord, la frugalité dans l'approche de la route, qui est une nécessité absolue du point de vue écologique. Donc, une frugalité en luttant contre le gaspillage par le recyclage intégral des ressources minérales, des granulats. Et puis, par la substitution du bitume par des ressources végétales, qui sont-elles renouvelables, voire qui stockent du carbone. On l'a vu tout à l'heure avec Recital. Deuxième grande dominante, la route contribue à la qualité de vie à travers plusieurs objectifs qui sont vraiment à portée de main. La lutte contre le phénomène d'îlots de chaleur en milieu urbain, la réduction des nuisances sonores, une meilleure sécurité en ville ou en interurbain avec des signalétiques innovantes, l'éclairage au juste besoin. Et puis la connexion de la route système qui, elle, est une route qui communique, qui peut améliorer la sécurité, qui peut être opérateur de maintenance prédictive, de prévision de trafic, etc. Messieurs, je vous remercie. Bonne journée à tous.
Merci.
Et
merci.
Bonne route.
Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.